Chers frères et sœurs, un petit peu d'hébreu pour commencer. Je ne sais pas si vous savez comment on dit le visage en hébreu, mais ça se dit panim. Et ces mots qui se terminent en im, c'est des pluriels. C'est-à-dire que quand on veut dire en hébreu le visage, on dit les visages. C'est tellement vrai de l'homme. Il a multiples facettes. Il n'est jamais monolithe. On le sait bien, au cours du temps, nous changeons. Mais la Bible veut nous dire aussi que c'est vrai ô combien de Dieu, les visages de Dieu, et ô combien vrai du Christ. Or, si nous faisons attention, du Christ, le plus souvent, nous ne retenons qu'un visage, celui de la faiblesse, celui de l'enfant Jésus dans la crèche, celui du missionnaire qui n'a pas une pierre où reposer sa tête, celui enfin du crucifié qui expire seul sur la croix. Et voilà, notre Christ se résume à cette figure-là. Et c'est pas juste. Et justement, les textes de cette fin du temps ordinaire et du début de l'Avent nous disent « Tournez les yeux vers un autre visage du Christ, le Christ glorieux, le Christ puissant, le Christ juge. » Or, ce n'est pas populaire du tout. On n'aime pas ça. Ça n'est pas notre sensibilité contemporaine. Et pourtant, l'Église est maîtresse et pédagogue. Elle veut nous enseigner quelque chose à travers cela, l'adoration, la conversion et la mission. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. D'abord, adorer. Lorsqu'on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Et le livre de Daniel, dont nous avons lu un extrait aujourd'hui, dit aussi « Je regardais dans mes visions nocturnes et voici... sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. On lui donna la domination, la gloire, le règne. Tous les peuples et les nations le servirent. » Pourquoi contempler ce Christ puissant et glorieux? Eh bien, je crois que c'est particulièrement nécessaire dans notre époque parce qu'elle a perdu un don du Saint-Esprit si important. On a beaucoup insisté sur le don de piété. C'est un don de confiance filiale envers notre Seigneur et ça manquait beaucoup et la petite Thérèse de Lisieux a fait beaucoup pour le réinstituer au milieu du cœur de l'Église. Mais c'est échappé, a disparu, ce don de la crainte de Dieu qui est le premier don. C'est-à-dire une adoration pleine de révérence. Et cela, finalement, nous appauvrit. Parce que quand on ne sait plus adorer plus grand que soi, c'est nous-mêmes qui devenons petits et mesquins. Cela n'a rien à voir avec des prosternements d'esclaves. Je vous cite Peggy. Tous les prosternements du monde ne valent pas le bel agenouillement droit d'un homme libre. Toutes les soumissions ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée. Et à qui Peggy pensait-il lorsqu'il écrivait ces lignes? Au roi Saint-Louis, qui n'était jamais aussi grand que lorsqu'il pliait le genou devant son Seigneur. Et c'est vrai de tout homme. Nous sommes rois si nous pouvons nous agenouiller devant Dieu. Nous sommes rois par notre baptême. J'aimerais citer un auteur qui est populaire aujourd'hui à travers les adaptations cinématographiques qu'on en a fait. Il s'agit de C.S. Lewis, l'auteur de Narnia. Peut-être les plus jeunes ont vu ces films-là, Narnia. Eh bien, C.S. Lewis, qui est cet auteur anglo-saxon, il avait perdu la foi parce qu'on lui avait présenté un Jésus étriqué, un Jésus sans mystère, un Jésus sans profondeur, et ça ne l'intéressait pas. Et que va-t-il devoir suivre comme itinéraire ? Eh bien, c'est un philologue, c'est un savant, il va étudier les mythologies. Et il va étudier notamment les mythologies nordiques, les grandes sagas. Et il va découvrir le sens d'une grandeur du divin, de quelque chose d'imposant et d'attirant. Et il va faire tout un itinéraire pour justement revenir à la foi catholique et voir que ce Christ grand, magnifique, mystérieux, profond, il est présent au cœur même des Écritures. Notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ, dit saint Paul. Et voilà, ce Christ va réveiller son attirance. Si beaucoup aujourd'hui rejettent la foi, c'est qu'elle est anodine. C'est que Jésus, c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de doux. Mais ce n'est pas quelqu'un devant qui spontanément nous courbons la tête et plions le genou. Cela n'empêche nullement la confiance. Cela va ensemble. Nous le dirons aussi, ce Christ, c'est un Christ juge. Nous le disons dans le Credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et nous l'avons dit aussi dans la première lecture, beaucoup de gens qui dormaient s'éveilleront les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance. Ils paraîtront devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, je crois que le jugement, nous le désirons plus que nous le redoutons. Nous désirons parce que nous désirons la vérité. Nous désirons la vérité sur nous-mêmes. Nous désirons qu'un regard nous transpèce, nous pénètre et nous devine. Or, quel est le tribunal aujourd'hui qui prévaut ? C'est celui des médias, qui fait et défait les rois, qui fait et défait les réputations, qui exalte une nation, en abaisse une autre. Et tout cela sans aucun rapport avec la vérité. Or, être jugé par le Christ, c'est être libéré de tout autre jugement qui n'a ni sa justesse, ni sa bonté. Et puis, ce Christ glorieux aussi, c'est celui que nous présente l'Apocalypse dans son premier chapitre. Quand Jean-Paul II a réuni un synode pour parler de l'Europe, il a rédigé à la fin une exhortation qui s'appelle « Ecclesia in Europa » et il commence en présentant ce Christ de l'Apocalypse. Un Christ qui va mettre au pas l'arrogance de l'Europe et également pointer du doigt sa désespérance et sa dépression. Parce qu'un Christ glorieux et puissant dit à l'homme occidental, tu n'es pas ce petit Dieu que tu crois être. Elle va lui dire aussi, quand il a tendance à se déprimer, moi le Seigneur et le Maître, je suis le Seigneur et le Maître de l'histoire. Alors arrête de te lamenter sur la décadence de ta civilisation, sur la perte de vitalité de ses populations, etc. Voilà, donc ce Christ fort, puissant, nous y aspirons. J'aimerais terminer avec ces deux points. Donc, ce Christ de la parousie, parousie, qu'est-ce que c'est ? C'est le retour glorieux du Christ à la fin des temps. C'était l'entrée glorieuse d'un empereur dans une cité vaincue. Mais ici, une cité non pas vaincue, mais conquise au Christ, qui est bien différent. Eh bien voilà, cette parousie du Christ nous permet aussi de nous dire, Seigneur, tu m'invites à la conversion. Tu reviendras à la fin des temps, ce qui signifie que un jour, l'histoire aura une fin. Je ne peux pas éternellement faire des brouillons. À un moment donné, si vous me permettez l'expression, il faudra rendre la copie. Et ça, c'est important, parce qu'on n'est pas toujours à faire des coups d'essai. Il faut se rendre compte, et chers scouts, je me souviens d'une parole du départ routier. Il faut se rendre compte que tout acte et toute parole engagent. Notre Père Lamy le disait différemment. Soyez tout au Christ dans le temps pour être tout à lui dans l'éternité. Et ce Christ qui reviendra à la fin des temps, donc nous exhorte à la conversion. C'est maintenant, ne diffère pas demain. Mais il exhorte aussi à ce que nous voyons nos frères et nos sœurs autour de nous se convertir. Il nous exhorte à quelque chose qui est très peu populaire aussi, à la correction fraternelle. Qu'est-ce que c'est que la correction fraternelle ? C'est voir l'autre dans sa destinée de gloire. Comment est-ce que demain tu paraîtras devant Dieu ? Or, notre individualisme tout-puissant nous dit « Mais fais bien ce que tu veux, c'est ton chemin, c'est tes histoires, ce ne sont pas les miennes. » Ça, c'est de la lâcheté et ce n'est en tout cas pas l'évangile. Si tu vois que ton frère a péché, prends-le à part et dis-lui en quoi il a péché. Nous n'aimons pas ces paroles-là, parce qu'on ne va pas toujours être bien reçu. Mais quel signe d'amour que de dire « Ta destinée éternelle m'importe. » C'était aussi un des charismes du Père Lamy, notre fondateur, que de voir par exemple les gens de son village dans cette destinée éternelle. Il voyait ceux qui avaient tout juste échappé à l'enfer ou au purgatoire, il les voyait comme ça dans cette vision un peu eschatologique, si l'on peut dire, et ça lui donnait un zèle pour les âmes extraordinaire. Puissions-nous porter les yeux eschatologiques les uns sur les autres. Et puis dernière chose, comme je l'évoquais, contempler le Seigneur qui reviendra dans sa gloire, dans sa parousie, eh bien ça va favoriser la mission. Nous occultons trop cet aspect, cette motivation dans la mission. Pourquoi annoncer le Christ ? Le Seigneur diffère sa venue, diffère son retour pour que nous ayons le temps d'annoncer l'évangile à la terre entière. À tel point que dans l'évangile de Saint Luc, ce temps qui sépare l'avènement du Christ dans la chair, sa naissance à Bethléem, de son retour dans la gloire, cet avènement glorieux, ce temps-là est appelé le temps des païens. Le temps qui leur est dédié, nous ne pouvons nous dérober, et les païens, nous sommes les premiers, bien sûr, accueillons l'évangile, mais ils sont autour de nous. Ce n'est pas de leur faute de ne pas connaître le Christ. C'est la nôtre, d'une certaine façon, de ne pas leur annoncer. Et je me le dis pour moi, vous le comprenez bien. Voilà, chers frères et sœurs, désirons cette parousie, cette manifestation, comme le retour d'un être aimé. Disons avec ferveur que ton règne vienne, c'est ça ce que cela veut dire aussi. Et demandons donc à Marie de transformer notre cœur pour que nous ne cédions pas à l'indifférence. Nous avons du poids, un impact sur l'histoire. Nous pouvons hâter le retour de notre Seigneur. Puissions-nous désirer avec Marie qu'un jour Dieu soit tout en tous.